Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Olivier Pironneau. Vous allez être étonné, Olivier est un mathématicien, membre de l'Académie des sciences, mais ça n'est pas pour ça que je t'invite aujourd'hui. C'est parce que tu es presque indien, dans le sens où tu as passé beaucoup de temps en Inde et que tu es imprégné de philosophie indienne. Et tu m'as proposé que nous parlions aujourd'hui de vérité dans la philosophie indienne. Alors Olivier, je t'écoute.
En séjour consolidé, j'ai passé peut-être plus de 10 ans en Inde. Je ne suis pas indien. Je suis allé en Inde pour des raisons de philosophie, de psychologie, pour essayer de trouver un équilibre que je ne trouvais pas en Occident.
Que tu ne trouvais pas ou que tu avais perdu ?
Je l'avais perdu, en fait. J'avais eu des problèmes de divorce et tout. J'étais vraiment assez choqué par la vie. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je vais te donner 2 expériences personnelles, mais j'en dirai pas plus. La raison pour laquelle je suis obligé de te donner 2 expériences personnelles, c'est qu'en Inde, la philosophie, ça se vit. Les idées ne sont pas intéressantes. La culture indienne ne fonctionne pas comme ça. 2 fois, j'ai été très étonné. J'étais dans une réunion avec quelques amis indiens et j'ai assisté à des débats de dialectique. J'ai été très étonné parce que la dialectique en Europe, elle est plutôt combative. Tu opposes un argument à celui que tu entends. Et en Inde, pas du tout. Quand tu entends quelque chose, tu ajoutes à ce que tu as entendu. La dialectique se présente un petit peu comme les chants d'oiseaux. Tu as entendu quelque chose de beau et tu vas rajouter quelque chose de beau. On dit que la musique indienne est aussi comme ça.
Mais si tu entends quelque chose avec lequel tu n'es pas du tout d'accord,
tu essayes de comprendre le point de vue de celui qui t'a étonné. La conversation est une participation à une expérience de partage. Au bout d'un moment, tu as dit tout ce que tu voulais, tu as entendu tout ce que l'autre a dit, et ça se termine dans le silence. On pourrait presque dire dans une extase esthétique de pensée.
Donc très différent d'une réunion à l'université de Paris 6 pour choisir un nouveau professeur.
Absolument. Donc ça, c'est la première expérience étonnante que j'ai trouvée par rapport à l'aspiration vers la vérité. La deuxième expérience, c'est que, en réfléchissant sur la vérité, mais c'est bien plus tard, hein, j'ai eu un cadeau, en quelque sorte. Subitement, je pensais à la vérité, qui est un concept, et puis j'ai eu l'impression que la vérité était partout, qu'il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus de raison de douter. La vérité, c'était un sentiment, qu'elle était partout. Donc je ne peux pas faire partager ce sentiment, parce que c'est presque une expérience mystique.
Très différente de la notion de vérité que tu as pratiquée en tant que mathématicien.
Alors, il y a une vérité, disons, factuelle, c'est-à-dire que tu prends quelque chose, est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce que le verre contient de l'eau ? C'est une vérité factuelle, il contient de l'eau. Mais il y a une vérité qui est beaucoup plus large, par exemple, quand tu prends une décision. Est-ce que c'est la bonne décision ? Donc là, le concept de vérité, il est implicite, si l'on peut dire. Et donc, le résultat d'une expérience comme celle-ci, c'est que tu finis par vivre dans le silence. Il n'y a plus de doute. Tu ne poses pas de question de savoir si tu as tort ou si tu as raison. C'est comme ça, c'est évident. Alors, c'est quelque chose qui est un peu dangereux. C'est quelque chose qui a déjà été discuté en philosophie occidentale, par exemple par Nietzsche, qui dit qu'on peut aller au-delà du bien et du mal, donc c'est un concept qu'on comprend. Mais il se trouve que je l'ai vécu, ou que je le vis, mais ça, je te laisse décider. Quand tu réfléchis à la vérité en Inde, finalement, tu termines dans le silence et presque dans un état de bien-être.
Ah, c'est pas un silence douloureux ?
Non, c'est pas aussi une angoisse mystique ou une aspiration douloureuse, pas du tout.
Est-ce que c'est de la sérénité ?
Oui, parce que tu ne doutes plus. Il faut comprendre aussi qu'est-ce qui n'est pas la vérité. Donc la fausseté, qui est un mot français pas très sympa. Alors en Inde, ça n'existe pas. C'est ce qui est tordu. C'est ce qui est faible. Les menteurs, c'est des faibles. C'est des gens qui n'ont pas ni la volonté, ni le courage de faire face à la vérité. Le concept de vérité existe, mais le concept de fausseté n'existe pas vraiment. Ce sont des états passagers qui vous rendent malade, qui vous amènent à la déchéance. Ils sont assez clairs là-dessus. C'est-à-dire que l'homme doit décider de son chemin, qu'il ne sera jamais statique. Il sera soit vers une augmentation de son bien-être, et là, la vérité est nécessaire, ou alors il va dans une autre voie et ça finira mal. Peut-être pas dans cette vie, tu sais qu'il croit aux vies antérieures et postérieures.
Je vais couper une seconde. Ça, c'est des choses, en quelque sorte, que les Indiens apprennent à l'école tout petit, dans leur famille, dans la culture générale.
Non, ils ne l'apprennent pas, ils sont comme ça. Ils sont nés dans une espèce de société où le dialogue, la dialectique existe en Inde, hein, parce qu'en Inde, il y a une caractéristique, tout est vrai et son contraire. On ne peut jamais dire qu'on connaît l'Inde et que ce qu'on va dire s'applique à toute l'Inde. Et donc la dialectique, en particulier chez les bouddhistes, a été extrêmement développée et reprise après par le Vedanta, dont le plus grand porteur est un sage, je ne sais plus si c'est du 3e ou du 6e siècle, mais qui s'appelle Shankara, dans lequel il encourage à trouver la vérité par la dialectique, par le raisonnement.
Donc par le raisonnement collectif, pas seul.
Non, intellectuel, personnel.
On peut arriver seul à la vérité.
Oui. La vérité, de toute façon, est un état intérieur. Il n'y a pas de vérité absolue. L'Inde est un pays d'une très grande tolérance. Tout ce que tu crois est intérieur et l'autre aussi. Et toi et l'autre ne sont pas séparés. Et avec un peu d'effort, ou disons un peu plus de largeur, tu vas comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Donc une très grande tolérance. Quand je te parle un petit peu de ce qu'on peut lire dans les livres et de l'origine historique de la vérité en Inde. L'historique de ce développement, c'est très très vieux, parce que les textes les plus anciens, les Védas, et le plus ancien, le Rig Veda, c'est une révélation. C'est écrit comme des poèmes, c'était chanté à l'époque. Paraît-il très beau, mais malheureusement je ne comprends pas le sanskrit, donc je ne peux pas participer. Quand tu lis, tu vois qu'ils ne disent pas qu'ils pensent, ils disent qu'ils voient. C'est-à-dire que la vérité leur est révélée. Mais en même temps, elle n'est pas séparée. On a l'exemple en mathématiques de Ramanujan, qui lui voyait la vérité sur un mur. La révélation chez les sages indiens, c'est beaucoup plus intégré. Ils ne disent pas comme Moïse ou Mohamed, on m'a révélé que. Ils disent, c'est comme ça, pour moi. Et ils disent, si vous voulez, suivre mon exemple. Le Rig Veda est comme ça. Plus tard, il y a eu beaucoup de textes qui se sont regroupés sous le nom d'Upanishad. Donc ça, c'est probablement 800 avant Jésus-Christ. Et là, il y en a une qui m'a beaucoup interrogé, parce que la première phrase, hein, parce que ça montre très bien quel est le point de vue indien sur ce problème d'arriver à la vérité. Elle commence par dire, qui dirige le mental vers son sujet ? Qui force le mot que l'homme va parler ? C'est quand même très bizarre comme question, de se dire que ta pensée vient de quelqu'un d'autre, de quelque part. Que le mot que tu vas dire, c'est pas toi. On te l'infuse. Et ça suppose un détachement du mental qui n'existe pas en Europe, à mon avis. Et ça, c'est très, très indien. comme question. Après, il y a eu la dialectique bouddhiste, disons, et puis il y a eu beaucoup de mouvements, d'autres mouvements pour arriver à la vérité qui sont un peu plus hermétiques pour nous, ce qu'ils appellent bhakti yoga, c'est-à-dire qu'il faut adorer le Dieu suprême ou enfin ta divinité, et puis tu penses à rien, surtout tu penses pas, et au bout d'un moment, tu vas te libérer de ton mental.
Revenons un tout petit peu à ce qui nous lie tous les deux, les mathématiques. Il y a des mathématiques indiennes, des mathématiques indiennes de qualité d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils ont réussi à gérer cette différence entre la vérité, disons, mathématique et la vérité que tu viens de décrire?
Pour moi, c'est un mystère. Parce que quand tu lis, je ne suis pas spécialiste des mathématiques indiennes, mais j'ai un petit peu lu, il n'y a pas de démonstration. C'est un peu comme le mot théorème, c'est une loi de Dieu, c'est comme ça. Et alors la grosse question, comment sont-ils arrivés là? C'est incompréhensible, parce qu'on ne peut pas faire des milliers de tests et dire que, puisque les tests passent, ça doit être vrai. Et il y a d'ailleurs des cas où on peut se planter.
Mais Ramanujan, justement, avait cette espèce de vision. Il s'est planté, oui. Mais il y avait cette vision, ça venait, on ne sait, de quelque part, on ne sait pas exactement. Quoi.
Les gens qui ont écrit les mathématiques, c'était des scientifiques qui s'occupaient de problèmes terre-à-terre, s'occupaient d'astrologie, d'astronomie, de construction de temples, combien de pierres il fallait. Mmh. Ils se sont abstraits de leurs préoccupations premières pour arriver à des théorèmes, disons. Et effectivement, on ne comprend pas très bien comment ils sont arrivés là.
Est-ce qu'un mathématicien indien a une volonté que ce qu'il dit est en adéquation avec ce que dit son collègue?
L'Inde n'est plus ce qu'elle était. L'arrivée des Anglais, disons 17-18e, a forcé les Indiens à laisser tomber une partie de leur culture et adopter la nôtre. Il y a des moments où j'ai l'impression que je connais mieux la culture indienne que mes collègues indiens. Eux, ils l'ont refusé et moi, je l'ai appris dans les livres. Donc c'est difficile de répondre à ta question parce que je pense que maintenant, d'abord, ils savent qu'ils ne pourront pas publier s'ils ne font pas de démonstration. Si tu t'intéresses à la vérité, tôt ou tard, tu débouches sur la théologie, sur le rapport avec la création du monde. Je me rappelle une phrase du Christ qu'il a dit, elle est fameuse, hein, qu'il a dit à Ponce Pilate. « Je suis venu pour témoigner de la vérité » et Ponce Pilate lui aurait répondu « C'est quoi la vérité ?» Dans la phrase du Christ, si elle est vraie, la vérité pour lui, c'était l'existence de Dieu. Nous sommes dans l'ère de Kali Yuga. C'est les ères, on ne sait pas très bien, mais c'est 5000, 10000 ou 2000 ans, les Indiens avaient classé les ères de l'humanité en 4. Et nous sommes dans l'ère noire. Kali, ça veut dire noir. Et donc, nous avons perdu tout contact avec la vérité. Nos politiciens travaillent dur pour que nous continuions à aller plus bas. On ne peut plus dire la vérité. C'est impossible. Pour dire la vérité, il faut être un sage. Il faut avoir une perception universelle, un contact direct avec le créateur, s'il en est un, mais le créateur en Inde, c'est... On peut être complètement athée et très religieux en Inde. Hein. Et donc, on ne peut plus dire la vérité. On peut être sur le chemin de dire un peu mieux. On ne le dira que le jour où on sera sorti de cet état où l'intellect domine notre activité. C'est ça le message de l'Inde, c'est que la vérité, elle est surmentale ou supramentale. Tu ne peux pas dire la vérité actuellement parce que tu n'es pas un sage avec la sagesse complète. En Inde, il y a deux sortes de personnages honorables. Tu as le pandit et le rishi. Le pandit, c'est celui qui sait tout, il a beaucoup lu. Donc c'est en général quelqu'un de très intéressant. Il a beaucoup lu, il est souvent très aimable. Mais ce n'est pas l'état le meilleur pour les Indiens. L'état le meilleur, c'est le rishi, c'est celui qui a la science infuse. C'est celui qui, justement, a accès à cette vérité qui lui permet de dire des choses sans vraiment savoir d'où elle vient.
Peut-être qu'il le sait parce que ses prédécesseurs dans des vies antérieures ont beaucoup travaillé.
Non, et le rishi n'a rien lu, a priori. Et d'ailleurs, il y a un sage indien qui s'appelle Ramakrishna Paramahansa. Il paraît qu'il citait les Écritures qu'il n'avait pas lues. On raconte beaucoup de choses en Inde, mais c'est possible.
Tu as dû vivre ça de manière un petit peu conflictuelle avec ta vie de mathématicien.
Ah ouais, on me pose toujours cette question. Non. Non, et j'ai essayé de savoir pourquoi. Si tu suis le développement, par exemple, proposé par le Bouddha, c'est-à-dire que pour accéder à la vérité, il faut tout arrêter, mais pas que lui d'ailleurs, où la plupart des traditions indiennes te demandent de devenir un saint. Tu vas faire le tour de l'Inde en costume ocre avec une gamelle pour mendier. Et ils te disent que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver. Il y a le problème du travail. Est-ce que ta recherche de la vérité doit impliquer un arrêt complet de toutes tes autres activités? Et la réponse est non, parce que si la vérité existe, alors elle est partout, y compris dans les mathématiques. Si tu commences à séparer entre ce qui est divin et non divin, tu es foutu. Tu n'es pas du tout dans la philosophie indienne. Nous sommes nés avec une certaine capacité pour les mathématiques, tous les deux. La jeter au panier, c'est faire une insulte à notre être. Et en plus, c'est un très grand plaisir de faire des mathématiques.
Olivier, ma dernière question que je pose à tous mes interviewés est toujours la même. Quelle serait selon toi une musique qui illustre ce que tu viens de me raconter?
Peut-être tu peux trouver une partie musicale de musique indienne dans laquelle tu as justement la réponse entre deux instruments. Donc tu vois qu'ils reprennent un bout de mélodie et ils n'essayent pas de la contredire, ils essayent de l'améliorer.
Alors vous avez écouté une raga jouée par Ali Akbar Khan au sarong et une tabla jouée par Zakir Hussein.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.